affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Notre émission de cette semaine va être consacrée au Coran, ou plus précisément aux origines du Coran et au Coran des origines, pour reprendre l'intitulé d'un colloque organisé en 2011 par l'Académie des inscriptions et belles lettres en collaboration avec la Berlin Brandenburgische Akademie de Wissenschaft. Pardonnez-moi mon allemand un petit peu claudiquant, dont les actes viennent d'être publiés. Je précise que ce colloque témoigne de la belle constance de l'Académie des inscriptions et belles lettres en matière d'études coraniques, puisqu'il était organisé pour célébrer le 550e anniversaire de la publication de la Geschichte des Korans de Theodor Nedelke. On peut traduire cette œuvre par l'histoire du Coran. En effet, cet ouvrage qui a marqué, nous le verrons avec notre invité, durablement les études coraniques, est directement issu d'une initiative prise à l'époque, c'est-à-dire en 1860, par l'Académie des inscriptions et belles lettres. Il s'agissait en effet de proposer comme sujet du prix du budget, comme on l'appelait à l'époque, de faire l'histoire critique du texte du Coran. Notre émission de ce jour sera donc l'occasion d'évoquer tout à la fois le Coran, son histoire, mais aussi l'histoire de l'étude scientifique du Coran, en n'oubliant bien sûr pas de signaler les dernières avancées de celle-ci. À cette fin, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir dans notre studio M. François Desroches. M. Desroches, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres, bien sûr, professeur au Collège de France, orientaliste, islamologue, expert en codicologie et en paléographie. Et vous avez été l'un des artisans de ce colloque. Pour en revenir à son point de départ, pouvez-vous nous présenter ce Theodor Nedelke dont l'ombre tutélaire planait sur ce colloque?
Alors, Theodor Nedelke est un grand savant qui est peut-être plus sémitisant au sens allemand de la parole, c'est-à-dire qu'il a fait des études d'hébreu, d'araméen et d'arabe. Et en fait, son intérêt a été surtout porté sur la Bible et les écrits chrétiens en langue sémitique, dans le domaine dans lequel il a fait des contributions très importantes. À l'époque où il a écrit la Geschichte des Korans, il est en fait pratiquement un étudiant avancé. Il vient d'obtenir l'équivalence d'un doctorat. Il a en effet pris part à ce qu'on appelait à l'époque en Allemagne un concours académique où il a rédigé en latin un petit texte sur l'histoire du Coran. Donc ça, c'est ce qui lui vaut de devenir docteur de manière assez rapide. Et la chance, le hasard, veut que pratiquement 2 ans plus tard, il lit dans un journal où il a connaissance par un collègue d'une initiative prise par l'Académie des inscriptions et belles lettres, initiative sur laquelle je reviendrai plus tard. Et elle se trouve coïncider en grande partie avec le travail qu'il vient de faire, et donc il va amplifier son travail, lui donner plus de profondeur en tâchant de répondre aux questions qui étaient posées par le sujet. Et il va soumettre ce texte, qu'il a également écrit en latin, à l'Académie des inscriptions et belles lettres pour le concours qui était organisé donc en 1857. Il est l'un des vainqueurs du prix, puisqu'on verra également qu'il a partagé le prix. Et ce succès fait qu'un éditeur allemand lui propose immédiatement de publier son texte. Donc il va le traduire du latin en allemand. Et c'est la raison pour laquelle même si on a l'impression que l'Académie a couronné un ouvrage en langue étrangère, ce qui à l'époque aurait été un petit peu surprenant, en fait il s'agit d'une traduction d'un mémoire en latin qui est toujours conservé d'ailleurs aux archives de l'Académie des inscriptions et belles lettres, qui a servi donc de point de départ. Par la suite, il va avoir une carrière très longue. Il est mort, il avait pratiquement 90 ans. Il a été professeur en Allemagne, mais alors surtout, il a été professeur très rapidement à Strasbourg. Et donc, bon, cette position a probablement été à l'origine de la lenteur avec laquelle il est devenu correspondant de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, dans la mesure où, étant professeur à Strasbourg avant 1918, n'était pas forcément une chose très appréciée du côté français, d'autant que il y avait à l'époque, sur un fond de rivalité nationale, des divergences, disons, entre la façon dont il concevait les études sémitiques et la façon dont des gens comme un membre de l'Académie, Clermont-Ganneau, le concevait. Donc il y a eu sans doute un certain retard. Il est resté à Strasbourg jusqu'à 1918 et il a même, si mes souvenirs sont exacts, été l'un des rares, voire le seul Allemand qui a été autorisé à rester après la fin de la guerre, puisque, comme on sait, les gens qui n'étaient pas de souche alsacienne ont été expulsés de France à la fin de 1918, début de 1919. Et puis donc après ça, il est retourné en Allemagne, mais il était déjà à la retraite, et il a vu la publication de la deuxième version de la Geschichte des Korans, celle qui, de nos jours, fait autorité, et qui est pour l'essentiel l'œuvre de deux de ses étudiants, Friedrich Schwally, qui a publié les deux volumes initiaux, et le dernier qui a été publié par Gotthelf Bergstresser, avec l'aide d'Otto Pretzel, Gotthelf Bergstresser étant mort dans un accident de montagne avant d'avoir terminé complètement son manuscrit. Et alors, quand on parle de la Geschichte des Korans aujourd'hui, on pense surtout à cette deuxième édition qui n'était pas concernée par le colloque de l'Académie, ce qu'on commémorait, c'était la première version, même le manuscrit original en latin et la publication en 1860 de la Geschichte des Korans.
Mais qui est donc quelque sorte la genèse d'un ouvrage qui va faire référence.
Voilà, c'est quand même le point de départ de cette histoire. Et pour en prendre la mesure, il n'y a pas très longtemps, a été publiée une encyclopédie du Coran, première de son genre. Et donc, pour réaliser cette tâche, on a fait appel à de très nombreux auteurs. Il faut admirer Nol de Queux qui, tout seul, vers le milieu du XIXe siècle, a été capable de composer un texte où il présentait une première synthèse. Alors c'était une œuvre tout à fait remarquable. Bon, il y avait déjà quelques travaux qui avaient été menés, publiés sur le Coran avant cette date, bien sûr, mais il faut se dire qu'à l'époque, c'était des contribution de portée limitée. On a bien sûr toute une tradition d'écrits à caractère polémique et disons parapolémique. On peut remonter au Moyen-Âge après tout. On a la traduction de Robert de Ketton du Coran à l'initiative de Pierre le Vénérable, l'abbé de Cluny. Et cette traduction du Coran prend place à l'intérieur d'un corpus clunisien, comme on l'appelle parfois, dans lequel il y avait des traductions de sources arabes sur le Coran dans un but très clairement polémique. Il s'agissait en fait de mieux savoir ce que disaient les autres pour préparer un discours contre tout cela. Donc, depuis le Moyen-Âge, on s'est intéressé en Occident au Coran, et puis, plus le temps passe, plus on a des choses qui sont de caractère plus scientifique, mais c'est vrai que souvent, c'est, par exemple, une vie de Mahomet, ou bien un point particulier, ça n'est pas une présentation d'ensemble de l'histoire du texte et du début de la transmission. Encore une fois, l'idée de faire un travail sur ce sujet, Nol de Queux l'avait eu en partie tout seul quand il avait fait son petit travail pour l'université de Göttingen, dont je parlais au tout début, mais c'est surtout en fait l'intervention de Renan qui est décisive.
En l'occurrence, peut-être est-il utile de lire le sujet qui était proposé. Donc, il s'agissait de faire l'histoire critique du texte du Coran, rechercher la division primitive et le caractère des différents morceaux qu'il compose, déterminer autant qu'il est possible, avec l'aide des historiens arabes, des commentateurs et d'après l'examen des morceaux eux-mêmes, les moments de la vie de Mahomet auxquels il se rapporte, exposer les vicissitudes que traversa le texte du Coran, depuis les récitations de Mahomet jusqu'à la recension définitive qui lui donna la forme où nous le voyons, déterminer d'après l'examen des plus anciens manuscrits la nature des variantes qui ont survécu aux recensions. Il s'agit donc réellement de soumettre ce texte à un examen, comment dirais-je, scientifique positiviste.
Positiviste, oui. Là, enfin, on reconnaît dans le sujet la marque d'Ernest Renan. Hein. On peut rappeler peut-être brièvement comment s'organisaient les concours. Il y avait donc une commission de spécialistes. Alors le prix du budget était attribué sur un cycle de 3 ans, d'abord donc aux études classiques, puis médiévales et orientalistes. Donc quand venait le tour des orientalistes, à cette occasion, donc le comité s'était réuni et Renan, en tant que secrétaire, avait sans doute bien contribué à orienter le texte dans un sens qui est tout très clairement celui qu'il aurait donné à des études bibliques. Chaque mot est marqué de manière indélébile par sa vision des choses. Sur un point, toutefois, il y a une petite addition. À la fin, il est question des plus anciens manuscrits du Coran. Et ça, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. Enfin, il y aurait peut-être pensé, mais l'un des membres du jury, de la commission qui était chargée de déterminer le prix, Toussaint Reynaud, était conservateur des manuscrits à la Bibliothèque nationale. Et alors, c'est là où l'histoire aussi est intéressante, puisque la Bibliothèque nationale avait acheté dans les années 1830 une collection de manuscrits anciens du Coran acquise au Caire par un agent consulaire français, Jean-Louis Aslan Cherville, qui était lui-même un élève du grand arabisant Antoine Isaac Sylvestre de Sacy. Et à sa mort, donc, sa veuve était rentrée en France et avait vendu la collection de son mari à la Bibliothèque nationale. Et donc, il y avait une quantité de parchemins qui attendaient un petit peu en désordre, qu'on y mit un peu de rangement. Et les choses en étaient là lorsque est arrivé en France un personnage extrêmement célèbre par ailleurs, Michele Amari. Michele Amari, comme son nom l'indique, c'est un Italien, un Sicilien pour être plus précis, qui s'est fait un nom en publiant à Palerme l'histoire des vêpres siciliennes. Alors cette histoire des vêpres siciliennes, elle avait bien sûr un sens politique. Le soulèvement populaire contre l'occupation, c'était une invitation à se soulever contre les Bourbons de Naples. Et à la suite de la publication, Michele Amari a dû quitter la Sicile assez précipitamment et il est devenu donc réfugié politique en France. Et là, il a suivi les cours de Reynaud au Langso, et il a appris l'arabe en pensant s'intéresser, ce qu'il a d'ailleurs fait par la suite, au passé arabe de la Sicile. Et puis, bon, il fallait bien vivre, et Reynaud lui a trouvé un petit emploi à la Bibliothèque nationale, enfin à l'époque elle était impériale, pour classer les papiers d'Aslan Cherville. Et Amari, qui était un homme extrêmement intelligent, a commencé à se piquer au jeu et est allé beaucoup plus loin qu'un simple classement, ce qui fait que Reynaud, impressionné par ce que lui racontait Amari de ses travaux, s'est dit que, au fond, une façon de récompenser cet étudiant et cet assistant qui était si compétent et si pleinement engagé dans la mise en ordre des parchemins, s'est dit puisqu'il était également membre de l'Académie, s'est dit bon, on va organiser un concours. Les concours étaient dotés d'un prix qui était pour l'époque tout à fait substantiel. C'était vraiment un beau prix. On va organiser un concours sur les manuscrits du Coran ou sur le Coran, et comme ça, Amari aura, disons, de quoi améliorer son ordinaire. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Donc, il a, quand le moment est venu, il a dû négocier avec Renan, qui a dû trouver l'idée excellente, dans la mesure où ça allait tout à fait dans le sens de ses propres recherches sur la Bible. Et le sujet, donc, a été publié avec l'idée qu'il y aurait un seul candidat. Hein, le Michele Amari, qui était le candidat local. Et alors, la surprise générale, ça a été de voir qu'il y avait non pas deux candidats, mais trois candidats. Le troisième étant un autre orientaliste qui est de renom, Alois Sprenger, un Autrichien qui a fait un passage par les Indes, où il avait acheté des manuscrits et collecté des choses qui, de manière tout à fait fascinante, vont servir en fait à Noldeke, parce que Sprenger rentre avec sa collection en Allemagne, et comme beaucoup d'orientalistes, donc a fait le pari d'acheter des manuscrits pour après ça les vendre sur place, dans la mesure où c'est la grande époque de développement des collections occidentales. Et donc il vend sa collection de manuscrits à la Bibliothèque royale de Berlin juste avant le concours, ce qui fait que Noldeke avant de la chose, et Noldeke en plus va trouver un petit boulot de bibliothécaire assistant à la Bibliothèque royale de Berlin, et donc il va pouvoir exploiter l'information fournie par la concurrence. et ça explique que dans son introduction du livre qu'il publiera par la suite, Sprenger a des mots extrêmement acides sur ces jeunes qui citent et qui croient que toute l'astuce c'est de citer, alors que la recherche c'est un petit peu autre chose.
Donc, oui, c'est d'une terrible virulence.
Oui, c'est assez acide, et même il s'en prend moins fortement, mais un petit peu, à l'Académie. Je pense qu'il était un peu dépité.
Oui, au monde de lettres en général.
Oui, je pense qu'il était un peu dépité de ne pas avoir été le seul vainqueur.
Oui, parce qu'au final, ils ont tous les trois eu le prix.
Voilà, et alors la France, qui était généreuse à l'époque, hein, on est sous le Second Empire, à l'issue des délibérations, donc il s'avère qu'il y a trois ex aequo, et donc le prix initial partagé par trois, ça faisait peut-être un petit peu juste, donc le secrétaire perpétuel Naudet a pris ses gants et son chapeau, est allé voir son ministre de tutelle et lui a expliqué qu'il fallait donner peut-être un petit coup de pouce à la dotation initiale, de manière à le répartir entre trois concurrents, ce qui fut fait, et donc chacun reçut un prix qui était quand même tout à fait décent pour l'époque.
Alors au moment où ce concours en quelque sorte est lancé, où en est-on des études coraniques ou plus largement de études scientifiques de l'islam et du monde musulman, et où en est-on aujourd'hui? Est-ce qu'il est possible de faire une large fresque en remontant peut-être même auparavant, puisqu'on voit que voilà, vous avez évoqué Cluny, mais enfin entre Cluny et les prix de l'Académie, j'imagine qu'il y a eu d'autres étapes. Est-ce que vous pouvez nous dresser cette fresque? Bon, en tout cas, ces grandes étapes.
Les grandes étapes, oui. Bon, il y a effectivement une partie ancienne qui est un peu de tâtonnement. Il faut penser que l'accès à l'information est loin d'être facile à l'époque. Alors, les manuscrits continuent à être une grande ressource. Il faut se souvenir que dans le monde musulman, l'imprimerie ne commence à jouer un rôle qu'à partir du 19e siècle. Donc, le livre est manuscrit jusqu'à une date extrêmement tardive. Et de ce fait, il faut...
Les exemplaires sont peu nombreux.
Voilà, ils sont peu nombreux. Donc, il y a un marché qui est assez limité et où on ne trouve pas forcément ce que l'on veut. Si je me souviens bien, d'ailleurs, Aslan Cherville avait reçu de Sylvestre de Sacy des instructions qui lui disaient « Si vous trouvez au Caire tel et tel texte, achetez, parce que ça, c'est quelque chose d'intéressant. » Et donc, les Occidentaux sont à la recherche parfois de textes très précis. Il faut rappeler aussi que c'est un peu du domaine de l'espionnage. Par exemple, la collection du roi au XVIIe, XVIIIe siècle s'intéresse beaucoup à des ouvrages de tactique, d'hypiatrie, pour des raisons militaires, hein, pour savoir quels sont les trucs de l'adversaire. Donc il y a cette quête intéressée d'informations. Et puis l'orientalisme qui naît pleinement à partir du XVIe siècle, alors de manière assez modeste au début. Il y a une chaire d'arabe au Collège de France dès le XVIe siècle, mais ça n'est que par la suite que les études se développent. Alors, l'intérêt initial, il est, comme je le disais, pour des choses très techniques. On a l'hypiatrie, mais on a aussi la médecine, par exemple. La médecine arabe continue à faire référence, et au XVIe, XVIIe siècle, on lit Avicenne pour se former. Hein. Ça fait partie des ouvrages, soit dans une traduction latine, soit, si on veut bien comprendre les choses, directement en arabe. Et puis, donc, dans le courant du XVIIe siècle, avec l'essor, disons, de l'impérialisme occidental, les contacts se multiplient avec l'Occident et les collections commencent à s'étoffer. On a davantage de textes. Et si on prend la bibliothèque orientale de Barthélemy d'Herbelot, qui est publiée à la fin du XVIIe siècle, on a déjà un gros ouvrage où figurent énormément de données sur l'histoire, sur les langues, la littérature, etc., des pays orientaux. Tout cela alimenté, bien sûr, par la consultation des manuscrits. Et parallèlement, quand on regarde l'orientalisme européen de l'époque, on s'aperçoit qu'on publie beaucoup des traductions, des textes, qui sont imprimés, à la différence de l'Orient, où ils continuent à être écrits à la main. On a dès le XVIe siècle des livres imprimés en caractère mobile en Occident. Et donc au cours du XVIIe et surtout du XVIIIe siècle, on constate l'essor de ces recherches orientales. Alors il y a des grands noms. Hein. Je mentionnais celui de Sylvestre de Sacy, fin XVIIIe et début du XXe siècle. Bon, c'est une figure absolument incontournable des études orientales de l'époque, auteur d'une grammaire, Chrestomathie, et d'une quantité de publications sur l'islam et sur le monde arabe. Enfin, quelque chose de très... Mais toujours le monde arabe vu de manière historique. On n'est pas du tout dans le contemporain. Le tournant se fait véritablement avec l'expédition d'Égypte, où vraiment ce qui était plus du domaine de la diplomatie, la connaissance du monde contemporain était avant tout le fait des missions diplomatiques qui collectaient du renseignement, qui essayaient d'informer sur ce qui se passait. À partir de l'expédition d'Égypte, donc les choses changent, et tout en continuant à se développer dans sa version, disons, classique, intérêt pour la littérature traditionnelle, intérêt pour l'histoire médiévale, l'orientalisme aussi commence à avoir un côté plus récent, avec des gens qui publient sur le monde contemporain, hein, que ce soit sur les langues. Il faut penser que l'arabe de la littérature, l'arabe littéral, est une langue écrite, mais bien sûr, l'arabe qu'on parle localement, c'est autre chose, et les Européens vont en faire l'apprentissage. Bonaparte revient d'Égypte avec des gens qui vont enseigner l'arabe dialectal à l'école des langues orientales, et ce mouvement donc va s'amplifier. Pour ce qui est du Coran, on le connaît, on a déjà des traductions. Au XVIIe siècle, Durier traduit en français le Coran, donc ça renouvelle la connaissance du Coran. C'est une traduction qui a énormément de succès, puisqu'elle est traduite à son tour dans d'autres langues européennes. Et,
C'était quel moment?
Donc c'est au XVIIe siècle. Donc on a la première traduction française du Coran. Galland, le traducteur des Mille et Une Nuits, avait également préparé une traduction du Coran. Donc vous voyez, il y avait pour le texte lui-même un intérêt ancien, mais c'est peut-être un peu plus tard qu'on commence à s'intéresser aussi à son histoire. La traduction anglaise du Coran de Sale contient par exemple un discours d'introduction qui est une sorte de présentation de l'islam, de ses principes, du Coran et de son histoire. Et puis, donc avec le 19e siècle, on entre dans des terrains nouveaux, dans la mesure où les textes sacrés ont déjà commencé en Europe à être étudiés sous un angle, disons, critique. La Bible, par exemple, a déjà fait l'objet d'études de la part de savants qui, Richard Simon est le nom qui vient à l'esprit, mais d'autres également commencent à approcher le texte biblique avec
critique historique.
Et donc, le 19e siècle commence à voir cela. On a par exemple, avant la Geschichte des Skorans de Nöldeke, on a un ouvrage de Abraham Geiger en allemand qui s'intitule, je traduis le titre, qu'est-ce que le Coran a pris au judaïsme, hein. Donc alors effectivement aujourd'hui le titre fait un petit peu sauter, mais ce que Geiger montrait, c'est précisément justement les liens entre le judaïsme et l'islam. Et alors ça va être un peu la tendance à long terme, de remettre le Coran dans un contexte. Si vous voulez, dans la tradition musulmane, il y a un discours sur ce qu'on appelle la jahiliya, la période de l'ignorance, l'âge de l'ignorance qui précède l'arrivée de l'islam. Donc l'Arabie avant le Coran, c'est une sorte de terre de païens qui ne respectent ni foi ni loi. Et puis donc le Coran. Et ce que progressivement on voit apparaître, c'est une remise en contexte où on tient davantage compte, alors d'abord sur un mode plus, disons, littéraire que archéologique, on tient compte donc des éléments qui sont des emprunts possibles au judaïsme, au christianisme, etc. Et puis, à une date plus récente, en fait, c'est les développements des 30, 40 dernières années, la connaissance plus précise du terrain de l'Arabie permet de voir, grâce aux inscriptions, grâce aux fouilles, que le contexte n'est pas exactement cela, que par exemple le christianisme ou le judaïsme sont beaucoup plus établis dans la péninsule arabe qu'on ne l'imaginait auparavant, et même dans des endroits beaucoup plus proches de la Mecque qu'on le pensait. On imaginait surtout le sud, le Yémen, ou l'extrême sud de l'Arabie Saoudite, ou bien sûr à l'autre opposé, le nord de la péninsule arabique est au contact avec des zones du croissant fertile où on parle l'arabe. D'ailleurs, pendant longtemps, les plus anciennes inscriptions arabes antérieures à l'islam ont été trouvées aux confins entre le désert et la Syrie. Maintenant, on vient de trouver récemment des inscriptions très marquées par le christianisme dans la région de Najran, c'est-à-dire à la frontière nord du Yémen, enfin c'est du côté saoudien, mais c'est pas très loin de la frontière yéménite, qui montre que le christianisme était très présent, du moins assez présent, à cette époque, dans le sud de la péninsule, et même à l'intérieur. Donc, cette remise en contexte amène à considérer le Coran comme un texte de l'Antiquité tardive. C'est un changement de vue, dans la mesure où, loin d'être une espèce de rupture absolue avec un passé d'obscurantisme total, en fait, il y a la prise en compte d'une espèce de terreau. Et on comprend beaucoup mieux. Le texte du Coran est très allusif. Il fait énormément appel à des figures bibliques, par exemple, dont on ne raconte pas toujours l'histoire, mais on dit « souviens-toi de Moïse » ou « souviens-toi d'Abraham », etc., sans entrer forcément dans les détails, parce que l'auditoire était sans doute assez familier avec ces histoires.
Oui, à plusieurs instants du colloque, les intervenants disent qu'il est allusif et elliptique, mais aussi extrêmement décontextualisé.
Voilà, il y a une espèce de volonté d'abstraction qui est frappante.
On ne retrouve pas, par exemple, dans l'Ancien Testament.
Voilà, dans l'Ancien Testament. Et alors, l'Ancien Testament raconte des histoires. C'est disons que il y a un cheminement linéaire qui fait que...
Mais c'est narratif.
Voilà, on part de quelque chose et on va vers une période plus récente. Le Coran, de par sa structure même, est organisé sur une autre base. C'est-à-dire que les les sourates, ou les chapitres du Coran, sont rangés, sauf pour la première, grosso modo par ordre de taille décroissante, c'est-à-dire que les sourates les plus longues sont au début et les plus courtes à la fin, ce qui ne correspond pas du tout à la chronologie, puisque si on classait chronologiquement, ce serait presque l'inverse, pas complètement, mais presque, c'est-à-dire que les toutes dernières sourates seraient au début et les plus longues vers la fin. Et donc cet ordre qui est parfaitement arbitraire est accompagné également par ce style coranique très particulier qui fait qu'on saute d'un sujet à un autre sans transition, de manière assez brutale. Une caractéristique qui a depuis longtemps attiré l'attention des chercheurs et que l'un d'entre eux, Richard Bell, dans les années 30, a essayé d'expliquer en montrant que par endroit, on pouvait peut-être avoir la trace de supports de petite taille sur lesquels on prenait en note une révélation. Et puis après ça, quelques temps plus tard, on notait une autre révélation qui n'avait rien à voir. Et au moment de compiler le texte de la Vulgate, on aurait recoupé le recto puis le verso, ou le verso puis le recto, en oubliant qu'il s'agissait de choses qui n'avaient rien à voir.
Différemment. Oui.
Mais, donc par moment, l'explication fonctionne assez bien. Pour d'autres cas, bon, ça n'est pas aussi clair. Mais disons que cette hypothèse a le mérite de faire percevoir un possible lien entre la matérialité de la prise de notes, puisqu'on sait qu'il y avait prise de notes à l'époque ancienne. On a des gens qui sont censés avoir été des copistes du prophète, et donc le lien entre cette matérialité et l'état du texte tel que nous le connaissons.
Ce qui nous amène au cœur même du sujet du colloque, le Coran des origines, les origines du Coran. Et d'ailleurs, la formulation de la question posée par Renan, c'est-à-dire ce livre, si on est un musulman pieux, est l'œuvre de Dieu qui l'aura dicté à Mahomet, je crois pas, l'archange Gabriel. Tout votre travail est au contraire d'essayer de découvrir par quel chemin très humain il a été constitué, en tout cas dans la version que nous connaissons aujourd'hui.
Oui, alors effectivement, c'est un peu le paradoxe coranique, que le texte est éternel. La tradition musulmane elle-même le contextualise dans ce cas-là, en essayant de manière souvent artificielle à relier chaque passage à un événement de la biographie du prophète, de manière à dire ce verset, c'était en telle circonstance pour répondre à une situation. Donc il y a d'un côté un texte éternel et de l'autre une déclinaison dans le temporel qui est de tous les moments. Alors l'historien s'interroge un petit peu sur les conditions dans lesquelles les choses se sont passées. Et le colloque, justement, était l'occasion d'essayer de comprendre différents phénomènes, des phénomènes qui peuvent aller, disons, de la littérature, de la stylistique, jusqu'à des choses qui relèvent davantage de la constitution du texte dans sa matérialité.
En l'espèce, il faut peut-être rappeler aux éditeurs que le Coran n'était, semble-t-il, pas initialement fait pour être imprimé, mais qu'il devait être récité, appris par cœur. Dans quelles circonstances le parti est-il pris de finalement en faire un livre ?
Alors, c'est le paradoxe du Coran. Effectivement, le message vient par oral. Ça, c'est quelque chose de clair. Et alors, ce qui est assez curieux, c'est que le texte du coranique est très autoréférentiel, c'est-à-dire qu'il se mentionne, ce qui n'est pas le cas de toutes les écritures. Et il se désigne très souvent comme un kitab, mot qu'on traduit habituellement par livre. Alors, il y a eu un certain débat parmi les spécialistes du Coran pour savoir ce que voulait dire effectivement kitab. Et récemment, la tendance était de préférer au terme livre, qui était trop précis, trop matériel, le mot écriture. Donc quelque chose de plus abstrait Et bon,
mais qui n'est plus oral.
Voilà, qui n'est plus oral. Mais c'est intéressant de voir que le Coran s'auto-définit comme une écriture, même si on admet que cette écriture et non pas livre, ça veut quand même dire quelque chose qui correspond à des signes sur un support, même si ce support peut être céleste, comme le dit un verset du Coran. Pour ma part, moi, je suis frappé de voir que, même si on admet le sens d'écriture, la réaction très naturelle et très compréhensible de la première génération de musulmans après la mort de Mohammed a été précisément de mettre par écrit, comme si le livre qui était annoncé, qui était attendu, pouvait enfin exister, comme si quelque chose qui n'avait pas été possible antérieurement, soudain le devenait. Et c'est là où on peut peut-être comprendre la façon dont les choses se sont passées. Je disais à l'instant que le Coran, de par sa structure, n'est pas linéaire, que l'organisation est au rebours pratiquement de la chronologie. Effectivement, c'est absolument incompatible avec un livre. Si vous prenez des notes en continu, vous avez forcément les choses les plus anciennes au début et les choses les plus récentes à la fin. Vous pouvez difficilement gérer à l'inverse. Enfin, on peut, mais on obtient des résultats assez discordants. D'autant plus que à plusieurs endroits, aussi bien la tradition musulmane que des chercheurs comme Bell, que je signalais tout à l'heure, montrent bien que la constitution des chapitres n'est pas elle-même linéaire, mais elle est par agglomération de petits fragments qui s'accumulent les uns après les autres, sans être forcément chronologiquement en phase, et aussi se combinent grâce à un travail éditorial. C'est-à-dire que le texte du Coran serait le résultat de la révélation plus un coup de pouce pour lui donner la forme actuelle. Pourquoi lui donner un coup de pouce ? Eh bien, tout simplement parce que l'une des caractéristiques du Coran, ce sont les rimes. Les versets se terminent habituellement par une rime qui crée un effet acoustique agréable. Ces rimes, bien sûr, peuvent être une révélation dès le début, mais en plusieurs endroits, on a des indices d'une rupture et la rime est une formule générale qui n'ajoute rien au reste du verset. C'est-à-dire qu'en fait, on a, disons, un message et puis une formule « et Dieu fait ce qu'il veut », par exemple, ou « et Dieu est le plus grand », quelque chose qui, substantiellement, ne change pas le sens de la révélation. Et donc, en revanche, ces petits bouts, eux ont l'avantage de pouvoir être mis en accord avec les rimes voisines. Et donc on a plusieurs endroits où on a bien l'impression que cela a été le cas. Et là où les manuscrits sont intéressants, c'est qu'ils nous donnent à voir, dans certains cas, ces bouts rimés, ces bouts rimants plus exactement, venant prendre place après la révélation et encore distingués comme un verset à part de la présentation qu'on en a aujourd'hui dans les éditions du Coran, où tout vient à la suite. Donc, plusieurs indices montrent que ce travail éditorial a sans doute eu lieu par endroit pour donner au texte coranique sa physionomie actuelle. Mais ce travail éditorial, bien sûr, retarde le moment de la mise par écrit. On ne peut pas mettre par écrit tant que tout ça n'a pas été mis en ordre.
Et on souhaite une version la plus définitive possible, voilà, et donc, à présenter.
Voilà, et donc il fallait, pour mettre le Coran intégralement par écrit, une chose importante, c'est la fin du message. C'est-à-dire que la mort de Mohammed permettait en même temps de mettre par écrit le texte du Coran. Et donc c'est, même s'il y a eu sans doute du vivant du prophète, des recensions partielles, des morceaux de texte qui étaient mis par écrit. On a différentes indications à ce sujet. Le Coran en tant que corpus n'est mis par écrit qu'après sa disparition. Et à ce moment-là, on voit une espèce de frénésie, et c'est là où la réaction des fidèles de l'époque me paraît intéressante. C'est-à-dire que même si kitab pouvait avoir le sens d'écriture, pour eux, ça faisait vraiment appel à une référence matérielle, un livre, et donc on s'est dépêché de le mettre par écrit. Il faut penser que la mise par écrit du Coran intervient dans les années qui suivent la mort de Mohammed, ce qui est très différent des évangiles, pour ne pas parler de la Bible, où le laps de temps qui s'écoule est considérablement plus important. Mais c'est vrai qu'il y a un modèle qui apparaît dans le Coran, c'est celui des peuples du livre. Les juifs et les chrétiens sont désignés de cette manière, et donc, de même qu'il y avait des peuples du livre, de la même manière, la communauté musulmane voulait être aussi détentrice d'un livre, d'une écriture, et le seul moyen d'y parvenir, c'était de le mettre par écrit.
Il y a une forme de mimétisme.
Voilà, c'est très frappant dans le texte du Coran, dont la chronologie n'est pas encore complètement claire, et je ne sais pas si un jour elle le sera, mais on voit, on reconnaît quand même des grandes étapes, et on voit très bien qu'il y a une progression dans la précision de la façon de désigner les écritures des autres communautés, puisque dans les dernières étapes, on parle des évangiles, de la Torah, des psaumes, comme s'il y avait une espèce de mouvement vers une précision plus grande en ce qui concerne les autres, qui pouvait peut-être faire écho ou inspirer la communauté musulmane dans ses origines.
Le fait que le livre, le recueil, je ne sais plus comment il faut l'appeler, soit postérieur au décès du prophète, semblait quand même poser un problème de légitimité. Ce qui m'a frappé dans l'une des interventions, ce sont les trésors d'intelligence déployés pour démontrer que, par avance, que oui, la version qu'on va proposer est conforme. Mais en fait, paradoxalement, plus on veut démontrer ces choses avec des tas d'arguments, plus on est un petit peu tenté de penser qu'on met le doigt sur la faiblesse du dispositif, d'autant qu'il y a des versions contradictoires. Est-ce que vous pouvez les présenter dans la légitimation, je veux dire.
Disons que c'est vrai qu'on a tendance à se raccrocher à l'histoire, à la version dominante, qui est assez claire avec le calife Osman, donc décidant sous son règne de mettre par écrit le Coran. Il n'est pas le premier à le faire, mais enfin, c'est lui qui serait à l'origine, disons, de la version canonique. Et pour ça, donc, il essaye de s'entourer de toutes sortes de précautions. Mais quand on lit l'ensemble des données dont on dispose, transmises bien sûr par la tradition musulmane, on se rend compte que à l'origine, au 8e, 9e siècle, il y a plusieurs récits qui sont en compétition et également, il y a plusieurs Corans en compétition. Il y a le Coran de Osman, mais même si ce dernier fait détruire les autres Corans pour remettre les choses à plat, en fait, elles ont dû continuer à circuler puisque nous avons des informations selon lesquelles des versions non canoniques continuaient à circuler au 10e, voire au début du 11e siècle. Donc la tradition musulmane est très claire. Il y a eu plusieurs Corans. Et de fait, le calife Osman est assassiné pour toutes sortes de raisons, et l'un des reproches qu'on lui fait, c'est précisément d'avoir éliminé les autres versions, et on lui dit « le Coran était multiple, tu l'as fait un ». Donc c'est quelque chose qui est assez frappant, et l'opération sera renouvelée au début du Xe siècle par un homme qui a un rôle très important dans la canonisation du texte, Ibn Mujahid, décide que les autres versions, dont certaines avaient une certaine légitimité, n'étaient plus bonnes, n'étaient plus recevables juridiquement pour la prière. Et donc, ça se traduit de manière très concrète. Il fait condamner un lecteur contemporain pour avoir utilisé lors de la prière une de ces versions non canoniques. Donc on a, disons, du côté de la tradition musulmane, l'indication très claire qu'il y avait plusieurs versions qui circulaient de manière concurrente à l'époque ancienne. Et puis, cette information qui avait un côté un petit peu peut-être littéraire et les informations qui nous ont été conservées par la tradition musulmane à ce sujet sont généralement assez limitées. Enfin, disons que les variantes, par exemple, ne sont pas très, très importantes. Ont reçu une confirmation qui allait bien plus loin, avec la découverte au Yémen d'un palimpseste au début des années 70, c'est-à-dire un manuscrit du Coran sur parchemin, où il y avait deux couches d'écriture, une couche ancienne qui était un Coran non canonique, un autre Coran, et au-dessus, après grattage de la couche inférieure, un autre texte du Coran qui lui correspond au texte de Osman. Donc, d'après les datations qu'on a de ce palimpseste, qui doit dater de la seconde moitié du 7e siècle, on a un témoignage très direct de ce qu'était un de ces autres Corans. Alors, on ne sait pas de qui il s'agissait, mais là où les personnes qui utilisaient ce Coran avaient un texte différent entre les mains, qui n'est pas non plus quelque chose qui bouleverse complètement notre connaissance de l'islam, mais montre qu'il y avait d'autres façons que le message était reçu de d'autres façons dans des milieux que malheureusement nous n'arrivons pas à définir. Nous ne savons pas si c'était des milieux, disons, schismatiques ou si c'était quelque chose qui était moins déviant. Enfin bref, ça, dans la mesure où ce sont quelques feuillets...
Oui, la nature des variantes...
Voilà. Mais en tous les cas, les variantes sont là et elles sont plus importantes que tout ce qu'on connaissait jusqu'à présent.
Par leur nombre, vous voulez dire?
Par leur nombre et par leur importance, puisque dans la tradition conservait des variantes où généralement c'est un mot à la place d'un autre ou une forme verbale à la place d'une autre, là on a parfois des segments qui sont différents, on a des cas où des versets apparaissent en plus, d'autres où ils sont en moins, donc il y a quand même une divergence qui est sensiblement plus importante.
Dans cette volonté de... C'est peut-être une dynamique propre à tous les monothéismes. Après tout, il y a des évangiles apocryphes aussi, je crois, de vouloir un texte de référence unique. Mais n'y avait-il pas aussi d'emblée des considérations d'ordre plus politique ou géopolitique? Ce sont peut-être des termes un peu imposés pour l'époque, mais une volonté de rayonnement et de rivalité entre cités, tribus...
Les enjeux politiques sont très clairs. Hein. Les personnes qui sont impliquées, Osman est calife, donc on ne peut absolument pas douter un seul instant que, sans doute en parfaite bonne foi, pour défendre l'islam naissant, l'idée qui lui est venue, c'était précisément d'avoir un texte de référence. L'argument qui est utilisé, qui est sans doute un argument apocryphe dans la mesure où le récit est postérieur, c'est il faut absolument éviter que les musulmans fassent comme les juifs et les chrétiens et se disputent à propos de leurs écritures, donc il faut un texte de référence. Donc l'enjeu, il est tout à fait clair, et on peut dire la même chose, disons, dans les autres cas. Les détenteurs d'autres versions ont également des allégeances politiques, par exemple du côté chiite, qui sont claires. Donc il y a la division entre le politique et le religieux n'est pas nette, et d'ailleurs il n'y avait pas de raison pour qu'elle le soit, dans la mesure où l'État médinois fondé par Mohammed était une théocratie très clairement. Hein, c'était
le Coran lui-même, dans l'une de ses parties, pose les bases d'un État. Oui.
Voilà, il y a quelque chose qui, de ce point de vue-là, est tout à fait clair.
Vous avez évoqué certaines contributions du colloque également, les liens avec d'autres religions du livre. Les recherches semblent s'être concentrées aussi sur les liens avec la poésie pré-islamique. Quelle est la place finalement dans la tradition islamique et dans le Coran des cultures autochtones ne se rattachant ni au judaïsme ni au christianisme?
Alors, depuis longtemps, on s'intéresse bien sûr à la poésie pré-islamique dans ses liens avec le Coran. Alors bien sûr, le texte coranique a quelques versets où justement on écarte avec fermeté l'idée que Mohammed serait un poète. Les poètes sont très mal vus d'ailleurs dans le Coran. Mais pour comprendre le Coran assez rapidement, les exégètes musulmans ont fait appel à la poésie pré-islamique qu'ils ont commencé à recueillir soigneusement pour y trouver des mots qui pourraient expliquer des termes coraniques. C'est un des paradoxes du Coran. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, le texte a été mis par écrit à une date assez haute, assez peu de temps après la révélation, mais on voit qu'un certain nombre de mots, très tôt, posent problème, que les gens ne savent pas très bien ce que ça veut dire, et il y a plusieurs explications qui sont données. Et donc, pour répondre à ces apories, à ces difficultés d'interprétation, on va chercher justement dans la poésie pré-islamique des informations sur le vocabulaire de l'Arabie ancienne. Et ça, c'est un mouvement qui débute au 8e siècle et qui s'amplifie par la suite, qui quelque chose de très important. Puis alors, le deuxième aspect, c'est bien sûr les recherches sur la culture de l'Arabie ancienne, et notamment donc l'étude des inscriptions pré-islamiques, qui elle aussi est intéressante dans la mesure où elle fournit des termes peuvent servir de référence pour expliquer certaines notions coraniques, des mots qui ont été utilisés finalement dans un contexte pré-coranique.
Dans le propos introductif de l'ouvrage et du colloque, vous parlez d'un regain d'intérêt pour les études coraniques. Quels sont les facteurs qui l'expliquent aujourd'hui? Autant en 1860, enfin, je crois qu'on est en pleine période de l'orientalisme, même non scientifique, mais artistique. Donc il y a une appétence pour l'Orient qui est très grande. Aujourd'hui, quels sont les facteurs qui poussent à s'intéresser davantage à ce texte?
Alors, l'un des facteurs, c'est peut-être justement que pendant un certain nombre d'années, les études coraniques ont un peu disparu du devant de la scène. Donc je pense qu'il y a un phénomène de balancier, c'est-à-dire qu'il y a on a eu en France par exemple, Régis Blachère a été un savant qui a beaucoup contribué à étudier le Coran, à essayer de le comprendre, mais après lui il n'y a pas eu directement de relève, et plusieurs années se sont passées finalement sans que la problématique coranique, j'entends bien par là l'intérêt pour le texte lui-même, puisque l'intérêt pour l'islam n'a jamais cessé, et l'intérêt pour les commentaires du Coran, le tafsir, se sont également maintenus. Et puis alors, ce qui s'est passé, c'est aussi qu'il y a eu la fin des années 70, en 1977 pour être précis, publication d'un ouvrage en Grande-Bretagne qui a fait beaucoup de bruit dans la mesure où l'auteur, John Wansbrough, faisait l'hypothèse que le Coran n'avait en fait été mis par écrit que très tard, non pas comme on le pensait traditionnellement au 7e siècle, vers le milieu du 7e siècle, mais à la fin du 8e, voire au début du 9e siècle, et pas dans l'Arabie du Nord-Ouest, mais en Irak. Alors, ça crée une
ébullition dans le milieu des spécialistes.
Dans les milieux de spécialistes, mais également chez les musulmans, qui étaient absolument indignés de cette idée. Alors, ça a coïncidé, grosso modo, avec deux évolutions. L'une, c'est la découverte de Sana, qui a mis dans le circuit donc un manuscrit coranique absolument magnifique qui changeait aussi notre conception de l'histoire de l'art de l'islam. Et puis le fameux palimpseste qui donnait une autre dimension à l'histoire du texte. Et puis en Occident, on a commencé à s'intéresser très sérieusement aux manuscrits et à essayer d'y mettre de l'ordre. Parce que finalement, Amari avait commencé son travail, mais il ne l'a jamais publié véritablement, dans la mesure où, pour notre malheur à nous coranistes et pour son bonheur à lui, patriote italien, les résultats du concours de l'Académie sont arrivés l'année de Solferino. Et Amari, qui était exilé politique, du jour au lendemain est devenu un personnage public en Italie. Il est retourné d'ailleurs immédiatement. Il est devenu ministre, il a été après ça sénateur. Enfin, il a continué à travailler sur. Mais Bon, il a laissé complètement tomber les études coraniques, ce qui fait que les résultats de ses travaux nous sont connus par le catalogue de la Bibliothèque nationale qui a été publié par la suite, mais de manière un petit peu succincte. Et depuis cette époque, la datation des manuscrits, même leur classification, était très très incertaine. Ce qui s'est passé, c'est que donc dans les années 80, on a commencé à prendre cette question de manière scientifique et commencer à mettre de l'ordre dans cette documentation, découvrir qu'il y avait finalement énormément de choses à gagner. Donc la combinaison de ces facteurs ont fait que brusquement, on s'est dit, mais tiens, regardons de nouveau l'histoire du Coran. Et puis, bon, il ne faut pas se voiler la face, il est certain que l'affirmation de l'islam, un certain nombre de faits qui ont fait la une des journaux, font que on s'interroge bien sûr sur le message coranique, sur sa réception de nos jours. Et même si les historiens du texte du Coran, comme moi-même, nous nous intéressons à des choses qui se sont passées il y a longtemps, il est certain qu'elles touchent quand même un petit peu les croyances d'un certain nombre de nos contemporains.
Justement, dans vos recherches écologues, j'imagine que vous êtes en contact avec de nombreux savants musulmans également. Cette recherche, critique ou non, sur le texte de Coran, comment se porte-t-elle en pays musulman ?
Alors, je dirais qu'elle se porte très différemment suivant les pays. Il y a des pays où difficile de sortir des notions traditionnelles. Dans d'autres pays, on commence à réfléchir de manière critique. Je prendrai un exemple. En Turquie, on a publié en fac-similé des manuscrits du Coran qui sont réputés être des Corans du calife Osman ou de personnages de cette époque. Et l'auteur du fac-similé analyse le texte très minutieusement et montre qu'en fait, cette affirmation est absolument impossible. Quelque chose qui... Bon, en Turquie, est parfaitement légitime, mais qui ne le serait peut-être pas autant en Égypte, puisque l'un des manuscrits qui est conservé au Caire est vraiment, pour beaucoup d'Égyptiens, réellement la copie de Osman, alors que, bon, ça n'est pas le cas. Mais, si vous voulez, sur des points aussi concrets, il y a des divergences de sensibilité, disons, entre les pays. Et puis, bon, il faut penser aussi que un certain nombre de mes collègues musulmans travaillent dans des pays occidentaux et peuvent peut-être plus facilement aborder des questions de ce genre sans avoir à se limiter dans la mesure où un auditoire local pourrait réagir de manière un peu vive à certaines affirmations. On peut repenser à l'histoire d'Abou Zaïd, donc un savant égyptien qui s'intéressait à l'histoire du texte et surtout à la composition du texte et qui insistait sur la dimension littéraire, qui à un moment a été obligé de quitter l'Égypte dans la mesure où il avait été mis au ban. Il est allé s'installer aux Pays-Bas où il a continué à enseigner. Cet exemple montre que une certaine recherche ne sont pas toujours faciles à publier et à mener dans des contextes où le poids de la tradition est souvent assez considérable.
Pour conclure et ouvrir sur l'avenir, quelles sont les grandes questions qui restent ouvertes et qui, selon vous, vont occuper les chercheurs dans les années ou davantage à venir?
Bon, il y a beaucoup de questions. Alors, il y a bien sûr, les études sur le Coran, c'est pour moi prioritairement l'histoire de la transmission du texte, essayer de comprendre finalement un cheminement qui est peut-être plus complexe qu'on ne le pensait, voir comment le texte s'est constitué, quelles sont les différentes strates qu'on peut y reconnaître. Et donc, une fois qu'on aura quelque chose qui nous permettra d'y voir plus clair, s'interroger sur la chronologie du texte. C'est-à-dire que depuis longtemps, les savants musulmans médiévaux ont classé les sourates entre sourates mécoises et sourates médinoises. Nœud de Queux a été un pionnier, et d'ailleurs sa classification continue à être généralement acceptée, en reconnaissant donc trois phases mécoises et une étape médinoise. Mais peut-être qu'on peut aller plus loin, et peut-être justement qu'en travaillant sur la transmission du texte, en reconnaissant les différentes composantes, on aura la possibilité de cerner plus précisément la chronologie du texte, qui nous permettrait bien sûr de le comprendre de manière plus précise.
Pour ceux que ces questions passionnent tout en étant dépassés par elles, pour ceux qui auraient été intéressés par d'approfondir cette émission et de se tourner vers le texte, pourquoi pas, d'une part, quelle traduction du Coran conseilleriez-vous aux auditeurs ? Et ensuite, quels ouvrages fondateurs pour se l'approprier de façon à la fois passionnée et critique ?
Bon, alors en français, nous avons la traduction de Blacher, mais aussi celle de Masson, que je recommanderais parce qu'elle est peut-être plus facile à lire que celle de Blacher. Bon, ce sont les deux façon, disons, d'accéder au texte, mais à l'heure actuelle, il y a bien sûr une quantité de traductions. En fait, elle se multiplie dans la mesure où c'est un texte qui est difficile à traduire, et donc là aussi, on peut l'approcher de différentes façons. Il y a des traductions qui sont l'œuvre de savants musulmans, donc qui respectent sur certains points des visions proprement musulmanes. Bon, celle de Blacher et celle de Masson sont peut-être un petit peu plus neutres de ce point de vue-là, dans la mesure où elles essayent de jeter un regard critique sur le texte.
Et s'agissant des œuvres qui permettent d'accompagner cette lecture, outre le Que sais-je que vous avez écrit aux presses universitaires de France sous le titre Le Coran.
Alors on peut, bon, il y a le dictionnaire du Coran publié par Ali Amir Moïsi, qui est aussi un bon moyen, disons, d'accompagner la lecture du Coran. Et puis pour ceux que ne rebutent pas l'anglais, l'Encyclopédia of the Quran, publié par Jane McAuliffe il y a de ça quelques années, qui, disons, alors là, donne un point de vue très scientifique. Hein, c'est une encyclopédie en plusieurs volumes. C'est vraiment pour ceux qui veulent aller très en détail.
Merci beaucoup, François Desroches. Je précise que, bien entendu, nous préciserons sur notre site internet toutes les références du colloque international que vous aviez organisé, la façon de se procurer ces actes, autant sur notre site que bien sûr sur celui de l'Académie des inscriptions et belles lettres. Merci beaucoup.
Merci à vous. Au revoir. Thank you.